Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu. Dans ce nouveau podcast, nous allons voir comment favoriser la curiosité ludique chez l'enfant. La curiosité est souvent associée à la découverte, que ce soit la découverte de pays, de cultures, de sensations, d'émotions, voire même de connaissances. Mais la curiosité est également associée à l'aventure et par conséquent à la notion de héros. Ce n'est donc pas un hasard si ce thème de la curiosité est proposé par le site très ludique et très éducatif Les Petits Aventuriers autour d'un carnaval d'articles sur cette thématique. Mais la curiosité ludique est moins connue. Mais tout d'abord, faisons le point. Qu'est-ce qu'exactement la curiosité ludique? Eh bien, c'est l'association de jouer, d'avoir du plaisir et de créer. Parce que le jeu en lui-même est créateur, et en particulier créateur de possibilités, car dans le jeu, tout est possible. Nous allons donc tenter de définir ces concepts et voir comment encourager ces trois formes de curiosité chez votre enfant. Mais tout d'abord, la curiosité, qu'est-ce que c'est? Pas aussi simple qu'il y paraît de définir la curiosité. Tout d'abord, est-ce que c'est une émotion, une sensation, une compétence, une qualité, un défaut? Pas facile à dire. D'après le CNRT, la curiosité serait l'envie d'apprendre et de connaître des choses nouvelles. C'est une première approche intéressante, mais essayons d'en savoir plus, justement. Penchons-nous sur ce qu'est la curiosité et ce qu'elle cache. La curiosité, c'est l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et cette curiosité est également réflexive, à savoir qu'il est impossible de connaître le monde sans se connaître soi-même. C'est une composante de la soif d'apprendre. C'est en effet l'envie de savoir, de découvrir, de comprendre, d'apprendre, d'être confronté à la nouveauté, de remettre les choses en question, de chercher des informations, d'observer, d'analyser, etc. La curiosité suppose l'enthousiasme, le désir, l'intérêt et la passion. La curiosité aussi, c'est tenter de voir ce qui se cache derrière les apparences de la réalité. La curiosité, c'est évidemment tenter de comprendre le monde qui nous entoure. Sans oublier que la curiosité, c'est aussi explorer notre monde intérieur. La curiosité, c'est oser s'interroger et poser des questions. C'est donc aussi accepter que l'on ne sait pas tout. À l'école notamment, celui qui pose des questions est souvent stigmatisé, ou si ce n'est pas le cas, il a un peu le sentiment de passer pour un idiot. Puisqu'il est seul à poser des questions, il pense qu'il est le seul à ne pas avoir compris. Alors qu'en général, la majorité des élèves se taisent pour être tranquille. Ou alors, le curieux est considéré comme un faillot par ses camarades ou par un trouble fait par les mêmes, mais aussi par les enseignants, car il empêche le déroulement normal du cours. Il faut respecter le programme, j'ai pas le temps. La curiosité oblige donc de se placer en position d'humilité par rapport au savoir. Je sais que je ne sais pas tout. Et c'est le mode de fonctionnement naturel de l'enfant, avant qu'il soit noté sur ce qu'il sait et ne sait pas, et par conséquent sanctionné parce qu'il ne sait pas. Alors que l'enfant qui ne sait pas devrait au contraire être encouragé, car lui seul peut apprendre. Je sais que je ne sais pas. C'est aussi la position de l'adulte qui commence à atteindre la sagesse, mais entre les deux. Tous ceux qui croient savoir, et peut-être aussi tous ceux qui ont fait de longues études et qui ont mémorisé de nombreuses connaissances, mais dont bien peu leur sont réellement utiles. Les grandes découvertes, alors curiosité, ou mercantilisme. Une partie des grandes découvertes est due, à n'en pas douter, à la curiosité des découvreurs. Dans la période historique qui porte justement le nom de grande découverte, à savoir du début du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle, les découvreurs veulent découvrir de nouvelles terres, de nouvelles cultures. Dans leur motivation cohabitaient certainement la curiosité, le désir d'aventure et aussi de découverte. En effet, jusqu'à la fin du XVe siècle, le monde connu par les Occidentaux se limite à l'Europe, au nord de l'Afrique et à la partie de l'Asie desservie par la route de la soie et les voyages terrestres de Marco Polo. Le reste du globe demeure inexploré, et la croyance de l'époque est que la Terre est plate, entourée d'un immense océan peuplé de monstres ou d'immenses cataractes qui engloutissent les navires trop aventureux. La route des Indes, de la soie et des épices. Pour ceux qui finançaient les expéditions, la volonté de trouver des marchandises rares pour l'époque, comme l'or, la soie, les épices, devait leur faire miroiter la possibilité de très gros bénéfices financiers. Sachant que la prise de risque était importante, puisque de nombreuses expéditions, qu'elles soient terrestres ou maritimes, ne revenaient pas. Mais la fermeture de la route de la soie, à cause d'une part des dangers et des difficultés qu'elle représente, accroît cette demande. Elle oblige les Occidentaux à privilégier la recherche de routes maritimes vers les Indes et l'Afrique. Grâce au progrès dans la navigation et en particulier à l'avènement de la boussole amenée de Chine par les Arabes, mais aussi de l'astrolabe, la navigation peut enfin s'éloigner des côtes. Les grandes traversées peuvent alors commencer. C'est le Portugais Bartolomeu Dias qui franchit le premier le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique en 1488. Mais il doit malheureusement faire demi-tour avant d'arriver aux Indes. Il ouvre cependant la voie à Vasco de Gama, qui parvient le premier à rejoindre les Indes par voie maritime en 1498. Christophe Colomb. Entre-temps, c'est Christophe Colomb qui découvre les Amériques en 1494, en voulant lui aussi se rendre aux Indes, en faisant le tour de la Terre par l'Ouest. La curiosité, l'attrait de la nouveauté devaient cependant être très prononcés chez Vasco de Gama et Christophe Colomb, sachant que leurs armateurs devaient avoir la tête sur les épaules et calculer quant à eux tous les bénéfices financiers qu'ils pourraient tirer de ces découvertes. L'envie de découvrir des espaces et des choses nouvelles est donc l'un des aspects de la curiosité. Et ce n'est spécifique ni à l'âge adulte, ni à l'enfance. Aussi, si vous voulez encourager cette forme de curiosité chez votre enfant, pourquoi ne pas lui faire faire une petite chasse au trésor? Vous en trouverez une super sur le site Les Petits Aventuriers qui organise ce carnaval d'articles. La curiosité, défaut ou qualité? Penchons-nous sur le mythe de Pandore. La curiosité nous fait ainsi découvrir que ce qui nous est donné pour acquis et immuable n'est en fait qu'un conditionnement, car si l'on est sincère sur la nature de la réalité, nous nous apercevons vite qu'elle est insaisissable et en perpétuel changement. L'origine de l'idée que la curiosité est un vilain défaut, et en particulier un défaut féminin, vient très probablement du mythe de Pandore. Dans la mythologie grecque, Pandore est désignée comme étant la première femme humaine. Sculptée dans l'argile par Héphaïstos, sur les ordres de Zeus, elle reçoit tous les dons et les vertus des dieux de l'Olympe. Aphrodite lui donne la beauté, Apollon le talent musical, Hermès le don de persuasion, et la curiosité, Héra lui fournit la jalousie et Athéna lui donne la vie. Zeus offre Pandore à Épiméthée, le frère de Prométhée, celui qui a dérobé le feu aux dieux. C'est un moyen très efficace pour se venger des hommes, comme nous allons le voir. En effet, il confie à Pandore un coffret dans lequel tous les maux du monde sont enfermés. Et surtout, il lui interdit de l'ouvrir, évidemment. Mais rien de plus tentant qu'un interdit. Et Pandore, poussé par la curiosité justement, ne peut évidemment s'empêcher de regarder ce qu'il contient. Mais à peine a-t-elle soulevé le couvercle que tous les maux de l'humanité se répandent sur terre, à savoir la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil. Pandore s'aperçoit immédiatement de son erreur et tente de refermer la boîte. Mais il est trop tard. Seule l'espérance, moins rapide que les autres, reste enfermée. La curiosité remet en cause l'ordre établi. Une autre raison qui fait que la curiosité est peut-être qualifiée de défaut peut bien provenir du fait que la curiosité représente un réel danger pour l'ordre établi. D'ailleurs, de nombreux savants et de grands découvreurs, comme Léonard de Vinci, Galilée et Giordano Bruno, s'opposaient à l'ordre établi et à la vision communément admise de leur époque. Giordano Bruno. Vers la fin du XVIe siècle, Giordano Bruno est un frère dominicain. Mais sa curiosité le pousse à s'intéresser à l'hermétisme et à la magie. Il se prend d'une passion pour la cosmologie. Avant Galilée, il défend la vision copernicienne du monde héliocentrique, centré sur le soleil et non sur la terre. D'autre part, il affirme que l'univers est infini. Il est le premier à défendre l'idée que les étoiles sont des soleils et postule l'existence d'autres mondes habités. Il défend également l'idée de la réincarnation et que l'âme de chaque créature n'est que Dieu lui-même qui passe d'une vie à l'autre. Mais c'est bien plus que ne peut tolérer l'Église de l'époque, et à la suite d'un procès qui dure quand même 8 ans, il finit sur le bûcher le 17 février 1600. Passons à Galilée. Quelques années plus tard, Galilée s'oppose de nouveau à la vision de l'Église plaçant la Terre au centre du Soleil. Mais contrairement à Bruno, Galilée peut apporter les preuves de ce qu'il avance, en particulier en observant les phases de la planète Vénus. Mais cela ne suffit pas à convaincre l'Inquisition et il est déclaré hérétique pour avoir osé prétendre que la Terre tournait autour du Soleil. Et Galilée doit finalement renoncer à sa vision s'il ne veut pas finir sur le bûcher comme Bruno. Et qu'en est-il des grandes découvertes scientifiques? Les découvertes scientifiques, guidées par la soif de comprendre et le monde inhérent à l'esprit humain, sont bien trop nombreuses pour les citer toutes. Mais certaines ont cependant un tel impact qu'elles ont bouleversé la vision du monde. Je ne peux m'empêcher de citer les découvertes d'un Isaac Newton avec son principe d'attraction universelle en 1687, ainsi que sa théorie corpusculaire de la lumière, suivie par Huygens et la théorie ondulatoire de la lumière. Puis, les grands et géniaux découvreurs, le méconnu Tesla et surtout Einstein et Planck. Isaac Newton. En 1687, Newton découvre le principe de l'attraction universelle et pose le fondement de toute la mécanique et de la physique moderne. Il établit que tous les objets pourvus d'une masse exercent une force d'attraction l'un sur l'autre. La force d'attraction est proportionnelle à la masse de l'objet le plus massif et inversement proportionnelle à la distance. L'accélération, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tombe l'objet, est, elle, constante et ne dépend pas de la masse de l'objet. Nikola Tesla. Nikola Tesla est l'un des inventeurs les plus brillants et les plus ingénieux de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Cet ingénieux américain d'origine serbe dépose plus de 300 brevets. Nous lui devons entre autres l'utilisation du courant alternatif, les premiers radars, un système hydroélectrique qui permet de convertir l'énergie des chutes du Niagara en électricité. Il effectue la première expérimentation avec des ondes radio. Il dépose un brevet d'appareil volant. Découvre les ondes stationnaires terrestres. Grâce à elles, il envisage l'utilisation d'une énergie libre, disponible en tout point de l'univers. Il meurt dans la misère et totalement oublié en 1943. Ses inventions et brevets sont alors récupérés par le FBI et classés secrets. Albert Einstein. La théorie de la relativité générale, énoncée par Einstein en 1915, bouleverse la vision d'un monde cartésien. Encore difficile à appréhender aujourd'hui, cette théorie avance que nous ne vivons pas dans un espace à trois dimensions, mais dans un espace-temps à quatre dimensions. L'espace et le temps sont liés et ne sont plus immuables. Ils subissent des déformations plus on approche de la vitesse de la lumière et également autour d'objets massifs. Cela signifie que l'espace n'est pas linéaire mais courbe et que le temps peut se ralentir ou s'accélérer, en particulier à l'approche d'objets hypermassifs comme les trous noirs. Max Planck. Max Planck et toute la mécanique quantique va encore plus loin en postulant l'existence d'un grand champ quantique universel qui unifie tout ce qui existe dans l'univers et le relie par une forme de champ électromagnétique qui forme une sorte de matrice universelle. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, trop complexes à aborder, mais dont les implications dans notre vision du monde sont immenses. Accepter les conséquences de la curiosité. Que la curiosité soit considérée comme un défaut ou non, il faut bien accepter les conséquences de ce que l'on va apprendre et découvrir. Et si parfois ces découvertes peuvent être positives, elles peuvent aussi parfois être dramatiques. Par exemple, dans le conte des sept femmes de Barbe Bleue, écrit par Charles Perrault et repris par Anatole France, l'épouse, trop curieuse, découvre les cadavres des anciennes épouses de Barbe Bleue dans le cabinet que son mari lui a évidemment formellement interdit d'ouvrir. Et le motif de ses disparitions lui est dans le même temps révélé. Mais elle fait appel à sa sœur Anne et à ses frères qui la sauvent finalement d'une mort certaine. Autre exemple, le destin du jeune héros du tambour de Schlöndorff est un peu différent, car la découverte du monde des adultes et les horreurs qu'il découvre le poussent à arrêter de grandir, n'acceptant pas, dans ce cas, les conséquences de ses découvertes. Mais revenons à la curiosité chez le jeune enfant. L'enfant est naturellement curieux de tout. Il effectue d'ailleurs tout seul ses premiers apprentissages et personne ne lui donne de réponse. Il découvre par lui-même. La curiosité qui le pousse vient de l'intérieur. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la contrarier. Mais comment l'encourager? Tout d'abord en ne l'empêchant pas. Cela veut dire aussi en ne fournissant pas de réponse toute faite. Également, un des principaux vecteurs de la curiosité chez l'enfant passe par l'action, la découverte active, le chemin du héros qui doit affronter des difficultés. La curiosité ludique, l'autre face des apprentissages autonomes. La curiosité est naturellement présente chez l'enfant, lui proposant une palette de découvertes ou de défis à sa portée. Dès son plus jeune âge, l'enfant se lance dans l'exploration du monde qui l'entoure. D'une approche très tactile dès sa naissance, il lui faut apprendre à démêler les images et les sons de son environnement et à leur donner un sens. Et dans le même temps, la maîtrise progressive de sa psychomotricité va lui permettre d'élargir son domaine d'expérimentation. Jeu, apprentissage et curiosité sont naturellement liés chez l'enfant. C'est d'ailleurs en jouant que l'enfant développe le mieux les apprentissages. Et sa curiosité le pousse à poursuivre. Ne pas séparer le jeu, les apprentissages et la curiosité. Vouloir séparer ces processus risque de les inhiber tous les trois, car le jeu est l'état naturel de l'enfant. Il baigne dans le jeu sans même s'en rendre compte, comme un poisson dans l'eau. Cela fait partie de sa nature de jouer. Empêcher un enfant de jouer, c'est le renier dans ce qu'il est au plus profond de lui-même. Car le jeu permet les apprentissages et elle est conditionnée par la curiosité. Mais aucun de ces trois éléments ne peut être conditionné. La curiosité de l'enfant est donc directement associée à des jeux libres, non dirigés, où les apprentissages se font tout seuls, de manière autonome. C'est pourquoi la curiosité, tout comme les apprentissages autonomes, dont il est l'autre face, ne peuvent être dirigés, mais peuvent être accompagnés. Si l'on veut préserver ce processus, il est donc essentiel que l'enfant puisse poursuivre ses jeux, de manière à ce qu'il puisse poursuivre ses apprentissages guidés par la curiosité. Voyons un peu pourquoi encourager la curiosité chez l'enfant. En effet, les bénéfices de la curiosité pour le développement et l'épanouissement de l'enfant sont très nombreux. D'abord, cela donne confiance en soi. Cela donne l'envie d'aller vers les autres. Cela favorise donc les capacités d'adaptation. Cela diminue le stress et l'anxiété par rapport à la nouveauté. Cela stimule la créativité. Cela développe les connaissances. Cela apprend la débrouillardise et à résoudre les problèmes. Et tant et tant et tant d'autres choses encore. Alors, sachant tout cela, comment encourager la curiosité naturelle de l'enfant? Encourageons la curiosité naturelle de l'enfant en lui donnant l'occasion de se manifester. Et pour cela, faisons-lui découvrir des choses nouvelles. C'est en lui donnant et lui montrant de nouveaux champs de connaissances à découvrir qu'il aura envie d'explorer de nouveaux domaines de connaissances. Et sans oublier le plaisir qu'il y a à créer, à s'exprimer librement. Laissons-les expérimenter comme il le fait depuis qu'il est petit. Encourageons-le également à s'intéresser à ce qui l'entoure, à regarder, à observer de manière neutre, à tenter de comprendre sans penser que nous, adultes, savons déjà. Il faut également ne pas trop vouloir en dire. Il faut être très vigilant par rapport aux réponses que l'on donne, en particulier à l'époque des « pourquoi » et des « comment ». D'une part, il paraît évident qu'il ne faut pas brusquer l'enfant en lui répondant de manière un peu péremptoire « tu comprendras quand tu seras plus grand ». Mais il faut également être très vigilant à ne pas lui donner une réponse plus détaillée que ce qu'il veut savoir. Les parents sont souvent ravis que les enfants posent des questions et s'engouffrent dans la brèche, voulant souvent tout lui expliquer en une seule fois, profitant de ces instants d'ouverture et de disponibilité. Mais proposer une réponse trop complète est problématique, car elle empêche l'enfant de se forger son propre raisonnement, et par conséquent n'encourage pas la curiosité. Un troisième travers serait de fournir des réponses trop fermées ou trop définitives. Pour développer la curiosité, il ne faut pas vouloir non plus occuper l'enfant à tout prix. Par volonté de bien faire, nous cherchons toujours des activités à proposer à nos enfants, de peur qu'ils s'ennuient. Pourtant, l'ennui est un élément important dans son développement, car c'est justement pour lui l'occasion de se poser la question: qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et de le laisser se diriger tout seul vers une activité qu'il a lui-même choisie. Car c'est en effet l'occasion d'explorer des domaines ou des activités inhabituelles. Par exemple, la méditation, qui permet à l'enfant qui le souhaite de commencer à explorer son propre monde intérieur. C'est aussi l'occasion de le ramener à une forme d'apaisement et de retour au calme après une journée bien agitée. Il est important que l'enfant trouve du plaisir dans toutes les activités proposées pour encourager sa curiosité. De même, il est toujours préférable que l'enfant choisisse ses activités plutôt que de les lui imposer. C'est pourquoi le jeu est évidemment un support à privilégier, car il y trouve toujours du plaisir et il est toujours enthousiaste pour y participer. Curiosité et prise de risque. Comme nous l'avons vu, la curiosité oblige à sortir de sa zone de confort et entraîne en général une prise de risque, qu'elle soit physique, morale ou intellectuelle. Les parents doivent tolérer cette prise de risque chez l'enfant, et pour cela, le meilleur moyen est de leur faire confiance. Soyons clairs, plus on met d'interdits, plus l'enfant, comme l'adulte d'ailleurs, veut les transgresser, et plus il prendra des risques. Donc, la meilleure sécurité s'établit, à mon avis, dans la plus grande liberté, qui permet également aux enfants de faire leur expérience eux-mêmes, tant qu'évidemment elles ne tirent pas trop à conséquence. Plutôt que de mettre des interdits que les enfants ne comprennent pas, laissons-les faire leurs expériences. Oui, les couteaux, ça coupe. Oui, le feu, ça brûle. Oui, il existe des dangers, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas en éloignant les enfants de tous les dangers qu'on les protège, car d'une part, c'est impossible, et d'autre part, ce n'est pas les aider à grandir et à devenir autonomes. Alors, faut-il mettre des limites à la curiosité? L'adulte estime parfois que l'enfant se montre un peu trop indiscret quant à la vie privée de ses interlocuteurs. T'es bien curieux, lui rétorque-t-on. Dans ce cas, il peut en effet être judicieux de faire comprendre à l'enfant que chaque personne a droit à un jardin secret, à un espace qu'il est libre de montrer ou non à ses amis en fonction de la confiance qu'il leur accorde. Il faut donc lui faire comprendre qu'il doit respecter ce jardin secret de la même manière que l'on ne s'introduit pas chez quelqu'un sans lui demander son accord. D'ailleurs, en échange, c'est l'occasion de lui expliquer que lui aussi a droit à un jardin secret, que ce soit simplement un carnet, une tente, une cabane ou pourquoi pas sa chambre quand il l'a décidé. Mais en dehors de ce cas, je dirais que tant que cela ne met pas en danger l'enfant, laissons-les vivre et expérimenter leur curiosité. Pour quelles raisons nous, adultes, devrions nous limiter arbitrairement le champ d'exploration de l'enfant? Voilà. Et vous, votre enfant est-il curieux? Comment faites-vous pour encourager sa curiosité? N'hésitez pas à consulter nos autres articles du blog apprendreparlejeu.com et à nous laisser vos astuces pour favoriser la curiosité chez vos enfants. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur notre blog apprendreparlejeu.com.